Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver. Chaque jour pendant l'été, nous vous montrerons que la France se bouge, se mobilise et ne s'arrête jamais, même en ce moment. Certains d'entre vous profitent sûrement de la plage. On va vous faire découvrir des solutions pour profiter de l'océan avec des balades en mer à moindre coût ou encore nager en toute sécurité grâce aux innovations des sauveteurs en mer. Et là encore, on voit que la France est à la pointe du sauvetage en mer. C'est le dossier du jour et ce sera bien évidemment après un pitch et une solution. Et c'est ça, la France qui bouge.
Europe 1.
La France bouge à mes côtés pendant toute l'émission. Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Dora.
Bonjour Elisabeth.
Et Jean Moreau, notre coach de la semaine. Bonjour Jean.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le cofondateur de l'appli Anti-Gaspi Phoenix. Alors on les découvre chaque jour dans La France bouge. Ils se lancent et pourtant c'est la crise. Mais nous on le voit chaque jour dans La France bouge. Hein. Ils sont jeunes, moins jeunes. Ils osent, ils ont l'audace. Comme vous. Bonjour Kevin Payet-Russob.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Grino Loco.
Oui, c'est ça.
Alors Grino Loco, c'est un site qui invite les cultivateurs en herbe, c'est-à-dire un peu comme vous et moi, hein, Dora.
Oui, clairement.
C'est ça. En gros, vous utilisez les parcelles des particuliers pour cultiver des fruits et des légumes, produire et vendre au plus proche du consommateur. De quoi s'agit-il ?
Exactement.
Comment ça marche ? On vous écoute, vous avez 1 minute 30.
Oui. Alors en fait, on a plusieurs constats. On est parti vraiment d'un constat où aujourd'hui, le consommateur moderne, il a envie des solutions qui soient simples. Mmh. Il a envie de manger sainement, il a envie de se reconnecter à l'essentiel, il a envie de bonnes choses. Donc ça, c'est le constat au niveau du consommateur. Il lui faut des solutions simples. Ensuite, il y a le constat au niveau des surfaces de production ici en France, où on n'a que 50% des surfaces qui sont nécessaires pour répondre aux besoins de la consommation. Et les techniques de production qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Donc en fait, on a fait ce constat il y a un an et demi en arrière. On a essayé de trouver une solution qui permette de pouvoir proposer un schéma qui soit alternatif et durable. Et pour ça, du coup, on va utiliser en fait les jardins de particuliers. Donc, on produit sur les jardins de particuliers en hyper proximité avec une communauté d'acteurs locaux. Donc, on a le prêteur de jardin, on a le jardinier passionné, l'ambassadeur, le coordinateur. Et nous, on vient animer en fait cette communauté. On vient les former, on vient les accompagner dans leurs projets perso. Et du coup, on commercialise une production hyper locale sur une plateforme et avec des produits qui sont 100% naturels. Et donc, c'est un projet à forte valeur environnementale, sociale. Donc, en fait, on va redynamiser la vie de quartier, la vie de la rue. Et donc, l'ensemble des acteurs peuvent vraiment porter une solution innovante et moderne.
Eh bien, écoutez, vous êtes allé au-delà de la minute 30. On a encore un petit peu de temps. En tout cas, merci pour votre pitch, hein, je précise que vous avez 29 ans, parce que c'est important de le dire, hein, vous êtes jeune et vous lancez dans Grino Loco. Je me tourne tout de suite vers Jean, notre coach. Je vous laisse poser la première question.
Alors ma première question, elle concerne la qualité des produits. Qui chez vous fait un audit de la qualité des produits chez les particuliers ? Comment je m'assure que le chien n'a pas uriné sur les produits, par exemple ? Enfin, quel est votre process pour certifier tout ça ?
Je n'avais pas pensé, mais c'est vrai.
Ça peut arriver.
On les lave en même temps après les produits.
Oui, on les lave. Après, c'est vrai que ça peut rentrer dans le sol. Donc, en fait, on travaille en collaboration avec des laboratoires et on fait une analyse de sol avant d'intégrer le terrain dans nos surfaces. Et ce partenariat, du coup, nous permet d'envoyer régulièrement des légumes et des fruits en analyse pour s'assurer de la qualité, qui est un élément hyper important pour nous, voire crucial dans notre développement, puisque le but, c'est d'être alternatif et donc on doit respecter les normes et les réglementations.
Mais parce que pour garantir la qualité de vos produits, effectivement, vous faites des études de sol, hein, réalisées sur les terrains qui vous seront prêtés. Donc ça, c'est le point majeur.
Exactement.
C'est ce qui vous différencie d'ailleurs, j'imagine, d'autres solutions qui existent déjà sur le marché.
Exactement, parce qu'en fait, on s'engage sur la qualité. C'est nous qui sommes responsables de la qualité du produit qui est vendu sur notre plateforme. Et donc, naturellement, il y a tout un processus d'encadrement qu'on a mis en place.
Alors, quel type de produit, par exemple ?
Ah, ça peut être de tout. On a des variétés classiques. Hein. Le but, c'est de répondre à 80% du besoin des consommateurs aujourd'hui. Donc, avoir des tomates, des carottes, des poivrons, des choux, des salades. Vraiment les classiques. Et après, on a des personnes qui sont très passionnées avec un niveau d'autonomie, d'expertise un peu plus poussé. Et donc, on vient chercher des vieilles variétés, des trucs qui reviennent un petit peu au bout du jour avec des variétés très spéciales. Donc, on a un peu de tout.
Alors, l'appli a été lancée au début du mois de juin.
Tout à fait.
Vous avez des terrains en France, mais pas seulement, aussi en Belgique.
Exactement.
Ouais. Et là, aujourd'hui, vous avez déjà un tout petit recul. Vous accompagnez combien, vous les appelez les ambassadeurs, hein.
Ouais, exactement.
Vous en accompagnez combien?
Alors aujourd'hui, on a une trentaine. Mmh. On a une trentaine d'ambassadeurs, alors qu'ils ne sont pas tous actifs, parce que le truc, c'est qu'on doit développer notre réseau en local. Mmh. Donc on a 30 personnes qui sont actifs avec nous, qui démarchent des terrains, des jardiniers, qui font un peu du porte-à-porte, qui rentrent dans des associations, qui tapent un peu à la porte en disant « voilà, on a un projet, il est innovant, il est moderne, on a besoin de vous ». Et donc voilà, on a une trentaine de personnes actives. On a 6 jardiniers passionnés qui sont actifs aussi cette année. Donc ça permet de créer une réalité sur notre modèle, sur notre activité, de dire « voilà, c'est possible, on peut le faire ».
Kevin, comment peut-on vous aider aujourd'hui? Puisque Jean est là, et Jean, il est entrepreneur. Donc, comment peut-on vous aider?
Aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre à chaque personne, à chaque habitant, à chaque citoyen, qu'ils ont le pouvoir de pouvoir agir différemment. Je pense que c'est vraiment ça dont on a besoin, en fait. C'est de rendre la responsabilité à chaque personne, de se dire de quel moyen je peux être acteur. Alors, ça peut être avec nous, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Forcément, on préfère que ce soit avec nous. Mais on peut tous agir à son petit niveau. En ayant peut-être un complément d'activité, en agissant un petit peu différemment. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Après, on a aussi des projets propres à notre développement. On a des projets de levée de fonds qui vont arriver. Donc, on a toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'animer notre communauté, de dire on existe, on peut apporter une solution différente, on a besoin de vous.
Jean, convaincu?
Ouais. Bah, si je me mets dans les chaussures d'un fonds d'investissement, ma question c'est, d'un point de vue logistique, comment ça se passe? Est-ce que c'est moi qui vais chercher les produits chez mon voisin, je suis livré, je les récupère dans un point relais? C'est quoi le circuit en fait des...
Alors en fait, il y a un peu de tout. On a vraiment une boîte à outils, c'est-à-dire que c'est notre ambassadeur qui fait le lien entre le consommateur et les parcelles. Donc c'est lui qui reçoit la demande de commande et qui vient du coup réunir l'ensemble des produits pour que le client puisse venir les retirer au départ chez lui, donc chez l'ambassadeur. Ou bien après, on peut faire des partenariats aussi avec des points relais. Donc, on a vraiment une boîte à outils de différents rôles, de différentes fonctions. Et on vient, en fait, en fonction de son projet, en fonction de l'aménagement de l'espace, faire différentes solutions.
Convaincue, Dora?
Oui, totalement. Moi, je me demandais comment on se répartissait les bénéfices.
Alors, c'est sous forme de commission.
D'accord.
Donc, en fait, chaque acteur perçoit une commission. Donc, le jardinier passionné perçoit 47% des revenus, enfin, du montant
de taxes. Qu'il a produit,
exactement.
Moi qui ai le jardin.
Ce qu'il a vendu.
Comment?
Moi qui ai le jardin.
Alors, le jardinier, en fait, le prêteur de jardin, pardon, il a un avantage en nature. C'est-à-dire qu'il peut utiliser la production au niveau de son foyer.
Il récupère les produits.
Voilà, l'ambassadeur récupère 23% et le coordinateur entre 4 et 5%.
Ça s'appelle Grino Loco. Merci à vous, Kevin Bayrussop, d'être venu nous en parler. Et surtout, donnez-nous de vos nouvelles, la suite, parce que c'est encore tout jeune et tout frais, comme vos produits.
Merci beaucoup.
Europe 1.
Vous recherchez des séjours d'aventure en France? Il y a énormément de choix, pas toujours facile de s'y retrouver. Eh bien, Dora Nana a trouvé la solution. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est le moment de retrouver Dora Nana pour la solution du jour. Dora, on est en plein pendant l'été, ce sont les vacances. Et vous allez nous aider à trouver des séjours d'aventure en France.
C'est Casaden, c'est une solution qui s'adresse à tous ceux qui, en cette fin d'été, ont envie d'aventure, de voyage, d'adrénaline, d'expériences nouvelles et tout ça en France, que ce soit des sorties en voile, des croisières en Bretagne, des stages de survie même dans le Jura, de l'alpinisme au Mont Blanc. Bonjour Jérémy Kremer.
Bonjour Dora.
Vous êtes le président fondateur de Casaden, alors faites-nous rêver. Là j'ai commencé, je vous ai aidé. Que proposez-vous en cette fin d'été? Du kitesurf par exemple, la voile?
Le Casaden, effectivement, on s'adresse à une clientèle qui est nombreuse. Et l'idée, c'est de proposer des vacances dans différents contextes, que ce soit avec vos enfants ou avec des amis ou en solo. Si par exemple, dans cette fin d'été, vous souhaitez partir avec vos enfants pour vous détendre, vous reposer, vous pouvez partir sur une croisière en Corse, vous embarquez avec un de nos skippers, par exemple Stéphane, au bord de son voilier à Porto Vecchio, vous descendez la côte sud de Corse, vous arrivez aux îles Lavezzi. Les îles Lavezzi, c'est incroyable, il y a des gros rochers on se croirait aux Seychelles, des rochers énormes sur la plage, de l'eau turquoise.
On y est là.
Pas besoin d'aller loin parfois.
Voilà, l'eau est à 25-27 en ce moment, donc c'est le top. Donc ça dure une semaine. Vous pouvez le faire, vous pouvez privatiser le bateau ou prendre juste une cabine, tout est possible. Si vous êtes un peu plus sportif, que vous voulez faire un séjour un peu plus engageant physiquement, vous pouvez vous initier à l'alpinisme. Par exemple, avec l'ascension de l'aiguille du Tour. L'aiguille du Tour, c'est au bout de la vallée de Chamonix. Vous allez monter au refuge Albert Ier, qui est à 2700 mètres. Et là, vous allez dormir au-dessus d'un glacier. Vous verrez le coucher de soleil, le glacier qui s'illumine, les immenses séracs. Donc, c'est des moments qui sont inoubliables. Vous faites ça, bien entendu, avec un guide de haute montagne qui vous accompagne et qui sécurise l'ascension. Vous levez à 5h du matin, le lendemain. Vous arrivez au sommet vers 8h. Et vous arrivez jusqu'à 3500 mètres d'altitude. Et là, vous dominez la Suisse et tout le massif du Mont Blanc.
L'aventure. J'ai aussi beaucoup aimé l'idée du stage de survie. Ça m'a intriguée. Ça. Racontez-nous, avant la rentrée, là, comment on se remet en forme avec
alors
un bon petit stage de survie.
On propose des stages de survie un peu partout en France. Et là, le principe, il est simple. Hein, c'est que vous partez en forêt avec un accompagnateur diplômé. Et l'idée, c'est de vous apprendre à survivre en pleine nature. Donc, vous partez avec pas grand-chose. Vous construisez une cabane. Vous apprenez à faire des pièges. Et là, l'idée, c'est de vivre en parfaite autonomie pendant 48 heures.
Wow. Et vous nous mettez en lien avec justement avec tous ces experts locaux pour trouver des spécialistes dans chaque domaine, que ce soit l'alpinisme, c'est pas tout à fait pareil, ou le stage de survie, on imagine que les encadrants sont pas les mêmes.
Voilà, donc Casadens, ça a été créé en 2015. Donc au début, on avait un réseau de connaissances, qui sont tous bien entendu des professionnels diplômés. Et de fil en aiguille, par recommandation, on a développé ce réseau. Donc aujourd'hui, on est en France, mais on est également un peu partout dans le monde. Et on s'adresse bien entendu à uniquement des professionnels diplômés. Et c'est par recommandation entre professionnels qu'on a développé ce réseau au fur et à mesure des années.
Et vous aidez justement, vous êtes dans un esprit d'engagement local aussi, d'aider ces acteurs locaux à se développer ?
Oui, tout à fait. C'est des acteurs qui sont spécialistes d'une région, d'un sport, mais qui potentiellement peuvent avoir un petit peu de soucis pour réussir à se faire connaître. C'est des passionnés, mais pas forcément des professionnels du digital, comme Casadens peut l'être. Et vraiment, l'idée, c'est de les aider à diffuser leur séjour et à en faire parler plus largement.
Mais vous allez directement les voir, les experts locaux, c'est-à-dire que vous établissez un lien avec eux, vous... Voilà, il y a quelque chose de proche, c'est ça aussi qui vous différencie de ce qui existe.
Tout à fait. Alors, nous, notre différenciation principale, c'est qu'on vous met en relation en direct. Vous pouvez échanger avec la petite agence locale ou le spécialiste en région. Et du coup, donc, il va pouvoir vous apporter des conseils et vous bénéficier de prix en direct. C'est-à-dire que vous n'avez pas de frais d'agence comme ce qui peut s'opérer sur des acteurs un peu plus traditionnels.
Notre coach, Jean, que dites-vous ?
Notre coach, il a regardé un peu le marché et j'ai vu que Airbnb, donc le géant du secteur, avait lancé un service Experience qui est assez similaire à ce que vous faites. Donc je me demandais comment, quand on est entrepreneur, on réagit à l'arrivée d'un gros mastodonte comme ça sur nos plates-bandes. C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle ?
Parce que vous existez depuis 2015. Hein,
voilà, on existe depuis 2015. Nous, on a pris ça comme une excellente nouvelle. Hein. Ça prouve que le marché est important. S'il intéresse des gros acteurs comme Airbnb, c'est top.
Ça n'aurait pas été mieux de vous faire acheter ?
Bon, pour l'instant, nous, on est passionnés d'aventure, donc on est très heureux dans notre domaine et on a envie de continuer et de le développer. Mais en Airbnb, la particularité d'Airbnb Experience, c'est que là, ça change depuis quelques mois, mais principalement, c'était proposé par des particuliers, les expériences.
Mais vous êtes un expert, c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. C'est-à-dire que là, ça n'a rien à voir.
Tout à fait, c'est-à-dire que nous, comme le disait Dora en début d'interview, effectivement, nous, on est des experts de la France, de notre terrain. On connaît parfaitement les professionnels avec qui on opère et c'est ça effectivement qui nous différencie d'un acteur américain.
C'est ça qui vous différencie et pour pas trop cher en plus, parce qu'au final, quand je vois vos gammes de tarifs,
Quels sont les tarifs en moyenne ?
C'est assez fluctuant. Hein. Tout à l'heure, vous parliez du stage de survie, hein, ça peut être aux alentours de 175 euros le week-end. Après, une croisière à la voile, en tout compris sur une semaine, vous en avez entre 1000 et 1500 euros.
Au niveau des fonds, de quoi avez-vous besoin en ce moment ?
Nous, on a levé des fonds début 2019, donc pour l'instant,
on a un million d'euros,
donc on a ce qu'il faut pour se développer. Les objectifs prioritaires, c'est de développer notre catalogue de séjours pour avoir toujours plus de solutions à offrir à nos clients et puis développer notre site internet pour que nos professionnels soient mieux outillés pour proposer leurs séjours et que nos clients s'y retrouvent mieux parmi la gamme de choix.
Jean, vous avez peut-être une suggestion, une remarque à ajouter ?
Non, pour moi, c'est très clair. Si j'avais quelques dizaines de milliers d'euros, je les mettrais volontiers dans l'aventure.
Eh ben,
je suis rassuré par la vision et l'ambition du projet.
Voilà, vous rassurez, Jean. Donc ça, ce qui signifie que votre projet et ce que vous avez mis en place depuis 2015 est bien solide. Ça s'appelle Casadens, une plateforme de réservation d'expérience et de séjour d'aventure. Merci à vous, Jérémy Crémer.
Merci beaucoup. Europe 1.
Et si on partait en mer sans se ruiner, moins connu mais tout aussi pratique que le covoiturage, le co-baturage avec un B comme bateau permet de partager son bateau. Des plateformes proposent de mettre en relation les propriétaires de bateaux avec des équipiers plus ou moins expérimentés. On va les découvrir. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Chanson qui ne se démodera jamais. Hein.
C'est dingue, c'est l'été, quand même, ça a passé des générations.
Et voilà, et on aime toujours autant. Alors, si on partait en mer, Dora, tiens, ça vous tente ?
Ah, moi, j'adore la mer, donc vous parlez à la bonne personne.
Et ben voilà, vous aimez la mer. Jean, vous aimez aussi la mer ?
Moi, j'adore, oui, la mer, l'océan, tout type de...
Et ben, tout type d'océan, de mer, et bien figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a du nautisme collaboratif qui nous permet de partir en mer à moindre frais, parce que c'est vrai, hein, ça coûte cher hein, de partir en mer, de louer un bateau, tout ça, ce sont beaucoup de frais. Et donc, ce principe du nautisme collaboratif, ça s'appelle le co-bâturage, avec un B comme bateau. Le principe, c'est de partager une sortie en mer, ou sur un fleuve ou un lac, hein, c'est possible, pour une durée plus ou moins longue. Ça commence à se démocratiser. Bonjour Anthony Roy.
Bonjour.
Merci d'être sur Europe 1. On est ravis de vous avoir. Vous êtes le président de Co-Bâturage. C'est une plateforme de sortie en mer et de croisière entre particuliers. Vous êtes assez précurseur parce que c'est une plateforme qui existe depuis 2014. Et d'ailleurs, vous avez racheté Co-Bâturage en janvier, là, il y a quelques mois, en janvier 2020, avec votre associé Charles.
Exactement. En fait, nous sommes tous deux passionnés du nautisme en général, toutes les activités nautiques. Donc Charles est plutôt un sportif, régate, tout ce qui est sport, sky, skate, etc. Donc, et moi, je suis plutôt un adepte du loisir, de la pêche, de la balade. Et donc voilà, on se réunit souvent, on est des amis de longue date, et puis on s'est dit à un moment donné, bah tiens, cette passion, il faudrait la transformer en quelque chose de plus global.
Alors voilà, vous avez réuni les deux, puisque ce site Co-Bâturage, il était un petit peu poussiéreux hein, depuis quelque temps. Et vous êtes dit, on va reprendre les choses en main, on va vivre de notre passion, et donc vous avez repris en main le Co-Bâturage.
Exactement. Donc depuis janvier, en fait, on était avec les fondateurs, donc Monsieur Petit et de l'offre. Donc on a repris la plateforme. Ils avaient un peu laissé la plateforme vivoter pendant un an et demi, qui avait perdu pas mal de son attractivité, qui avait aussi perdu ses éléments de sécurité. Donc on a tout remis là sur les trois derniers. Sur ce premier semestre, on a remis tout à jour, voilà, pour aborder la saison estivale de la meilleure des manières. Et là, au mois d'août, on va dépasser des 26 000 inscrits sur la plateforme, à peu près 600 sorties proposées. Et puis, on a quand même, sur cette période estivale, à peu près 700 000 visiteurs sur la plateforme.
26 000 inscrits. On peut le dire, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais c'est une sorte de Airbnb du bateau. Hein. C'est-à-dire que c'est une plateforme un peu qui met en relation les propriétaires de bateaux et des personnes qui souhaitent partager toutes ces sorties.
On dirait plus que c'est le Blablacar.
Le Blablacar. On salue d'ailleurs voilà. Fred Mazella, qu'on aime beaucoup aussi à la France Bouge.
Voilà, donc on est plutôt le Blablacar du nautisme. D'ailleurs, pendant une période, on imaginait pouvoir appeler ça Blabla Nautica, tellement qu'on veut se rapprocher de ce modèle-là, c'est-à-dire que des amateurs, des particuliers, propriétaires d'un bateau font une sortie, organisent une transat, organisent une activité nautique, soient en capacité de pouvoir partager cette passion avec d'autres qui n'ont pas la chance ou les compétences ou l'envie d'avoir un bateau, par exemple, toute l'année et de s'en occuper. Mais quand même, qui n'a pas dit sur la plage, en été, en famille, en voyant ces petits voiliers passer au large, se disant « Oh, j'aimerais bien faire un tour de ce bateau-là » et se dire « Bah oui, mais bon, j'ai deux enfants, ça fait quatre personnes, ça va commencer à faire cher, location de bateau, pas possible, j'ai pas mon permis, je sais pas naviguer, qu'est-ce que je fais ?»
Et avec vous, c'est possible.
Et voilà, vous allez sur cobâturage.fr, vous avez juste à regarder, vous avez une recherche assez simple.
Alors par exemple, faites-nous rêver, si on veut aller faire une balade en mer, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?
Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, vous pouvez aller. Vous êtes sur la côte basque. On n'est pas loin. Je vous prends comme exemple.
Mais la côte basque. En plus, je suis de là-bas, voilà. Moi, donc ça va. Je suis de la Bayonne.
ça tombe bien, voilà. On a des bureaux à Isabelle et notre centre de développement est basé à Isabelle. Donc, vous voyez, on est juste à côté de la côte basque.
Et ça va nous coûter cher ?
Non, pas du tout. En fait. J'ai l'habitude de sortir de louer des bateaux pour sortir faire des sorties après-midi ou journée en pêche en mer, d'accord. Ça me revient à peu près à 450 euros. Voilà, ça nous revient avec un ami à 450 euros. aujourd'hui une sortie sur covoiturage pour aller pêcher la bonite pendant la saison, ça coûte 50 euros par personne.
Jean, vous êtes partant, vous, hein, j'en suis sûr.
Je suis partant, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes sur la taille du marché. C'est-à-dire que sur le covoiturage, on voit bien, hein, c'est massif et puis on le prend tous les jours. Ouais. Sur ce marché-là, j'ai deux doutes. Est-ce que ce n'est pas une niche pour des privilégiés qui partent en vacances? Et puis, est-ce que ce n'est pas très saisonnier comme business? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces deux choses?
Alors déjà, en effet, on pourrait se poser cette question-là. Néanmoins, ça fait quand même 23 millions de personnes qui sont sur les côtes françaises.
Je pense qu'il y a de la place.
L'exemple des côtes françaises, il y a 23 millions de personnes qui viennent sur les côtes françaises pour faire des activités nautiques. Dedans, il y a quand même 5 millions de plaisanciers. Donc, il y a quand même un marché qui est quand même important. Mmh. Et il y a deux freins à ce marché. Et nous, on agit sur ces deux freins. Premier frein, ça va être la sécurité. Et la sécurité dans sa grandeur, c'est-à-dire à la fois sur le bateau.
Concernant le bateau et concernant la personne qui vous. Le skipper, quoi, j'ai envie de dire.
Voilà. C'est-à-dire, on va dire, les contrôles à quai, les contrôles en mer et bien sûr le contrôle en amont, qui est le contrôle de la réservation, des compétences, de la capacité des bateaux et des personnes qui vont être passagers. Donc nous, on va tenter d'optimiser le risque par rapport à ces évolutions-là. Notre application elle est en capacité de pouvoir fournir des alertes à SNSM, au CROSS et à tous les organismes qui sont capables d'interagir sur les océans pour sauver quelqu'un. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. On va essayer, en tout cas, c'est pas encore, ça arrivera plutôt en janvier 2021. On aura la capacité de pouvoir mettre des plans de navigation et donc de contrôler les compétences.
Et donc là, on est dans une professionnalisation totale des personnes avec lesquelles vous allez collaborer et travailler.
Exactement, on fait des liens avec l'ensemble, comme aujourd'hui BlaBlaCar le fait. Quand vous déposez votre permis sur BlaBlaCar, la solution BlaBlaCar va interagir avec les bases de données de l'État qui concerne les permis de conduire.
Et ce sera pareil pour covoiturage. Dora, des innovations, il y en a d'autres hein, comme ça.
Oui, il y a Samboat notamment qui est installé à Bordeaux, donc à croire que c'est le coin qui est propice à ça. Mmh, ils proposent aux particuliers de louer leur bateau voilier ou à moteur quand ils ne l'utilisent pas, parce que comme on le disait, un bateau est utilisé 10 jours par an en moyenne, donc ça permet d'amortir les frais pour les uns, l'entretien, la location d'emplacement au port, hein, tout ça, ça coûte cher, et pour les autres, d'être capitaine de bateau quelques heures ou quelques jours.
Notre coach Jean, c'est bon, vous êtes rassuré
Oui, en partie, mais je rebondis là-dessus.
Anthony.
Si jamais le bateau ne sert que 10 jours par an, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des inconnus à bord ou est-ce que j'ai juste envie d'en profiter tranquille en famille ou avec mes amis?
Anthony, vous avez une réponse à ça?
Nous, l'avantage, c'est qu'on vient de faire une étude sur les 26 000 inscrits et qu'on sait exactement leur problématique. Et la problématique, elle dépasse de ça. Si je vous disais qu'en moyenne, les propriétaires de bateaux sortent deux fois par an, pas 10 fois, hein, deux fois, seulement deux fois par an. En effet, une des solutions, c'est comme un appartement, hein, c'est de le louer, sur une partie, mais ce n'est pas un appartement, le bateau.
Non, c'est autre
Donc,
chose.
Donc, en effet, c'est autre chose. On a un partage passionnel. Les personnes qui sortent et qui sont propriétaires, et pour la majorité, ne sortent pas plus de deux fois ou trois fois dans l'année, pour deux raisons. Donc, la première, c'est la sécurité aussi, parce que leurs proches leur disent « ne sors pas seul en mer ». Ne sors pas seul en mer, c'est dangereux. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est ça coûte cher. Donc, j'optimise.
Vous optimisez et vous répondez à tout ça. Et en plus de ça, vous nous faites du bien avec des balades en mer. Merci à vous, Anthony Roy. Ça s'appelle Covoiturage, cette plateforme de sortie en mer et croisière entre particuliers. Europe 1. Il a une image ringarde, c'est vrai, on peut le dire. Et pourtant, il détrône les casquettes de plage. Le Bob est de retour. Et en plus, on en a trouvé un qui est 100% français. Il fait des ravages cet été et on va le découvrir. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Au
soleil. Parfait. Ça, c'est parfait, hein, comme musique. Et oui, parfois on porte des lunettes de soleil, le verre est trop foncé ou trop clair, on reste encore un peu ébloui. Et on se surprend même parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, Dora et Catherine, on plisse les yeux alors qu'on a les lunettes
exactement.
De soleil. Bon, et bien là, apparemment ce ne sera pas le cas avec vous, Jean-Paul Borot, bonjour.
Oui, bonjour, merci de me recevoir à l'antenne.
Nous sommes ravis, vous êtes le fondateur de Shetters, Shetters. Et vous avez inventé les lunettes de soleil qui se teintent en une seconde en cas d'éblouissement. C'est quoi exactement?
Alors, on a voulu régler une problématique que tout le monde a rencontrée un jour, et je pense que vous avez été dans ce cas-là. Vous avez certainement porté des lunettes de soleil pendant la conduite, et vous êtes rentré dans un tunnel.
Ah oui, c'est noir absolu.
Mais là, on est obligé de les retirer, et dès qu'on sort du tunnel, on les reporte.
Voilà. Alors, ça a l'air d'un geste anodin, mais effectivement, c'est une conduite qui est délicate puisqu'on quitte le volant. Alors, ça peut être sur une moto aussi, bien sûr. Mmh. Et donc, on a voulu régler cette problématique parce que, à la date d'aujourd'hui, il existe des lunettes de soleil qui ont une teinte fixe. Et il y a aussi des technologies qui existent, qui sont des verres photochromiques qui changent de teinte au soleil. Le problème de ces verres, c'est qu'ils marchent très, très bien. Seulement, ils sont sensibles qu'aux UV. Donc, si par exemple, vous êtes derrière un pare-brise, c'est beaucoup plus délicat à déclencher. Et surtout, c'est qu'ils vont se teinter à peu près assez rapidement quand les UV sont présents à forte dose, entre 30 et 40 secondes pour devenir entièrement foncé. Mais le problème que l'on a, c'est que quand on rentre en absence d'UV, donc l'entrée en tunnel, il leur faut 5 minutes pour redevenir clair. Donc, vous ne réglez absolument pas la problématique.
Et vous avez tout réglé dans cette problématique avec vos verres?
Alors voilà, donc on a cherché à développer. À l'époque, je travaillais surtout sur des lunettes de 3D pour créer le relief au cinéma. Et donc, un jour, je suis rentré dans un tunnel de la même manière que tout le monde. Mais en plus, j'ai eu des stries de lumière puisque à ce moment-là, c'était le tunnel en allant à l'aéroport. Il y avait des stries de lumière qui rentraient entre les pylônes. Et là, j'avais carrément un effet stroboscopique qui arrivait, qui était très, très désagréable à la limite du nauséeux. Et là, je me suis dit... c'est vraiment le moment d'essayer de trouver un challenge pour régler cette problématique. Et pour moi, je ne voyais qu'une solution, c'était d'associer l'électronique à des matrices, des verres formés par des matrices à cristaux liquides, c'est la technologie qu'on utilise. Et mon challenge, c'était de trouver quelque chose qui soit sans pile ni batterie. C'était vraiment qu'on puisse oublier la technologie et retrouver un fonctionnement de lunettes photochromiques, mais avec une adaptation instantanée.
Alors, elles sont comment? Est-ce que ça ressemble à une paire de lunettes de soleil classiques?
Alors voilà, donc 7 ans de développement, parce que c'est pas le tout d'avoir l'idée, de trouver la structuration électronique et la solution optique qui pourrait s'adapter avec les matrices. Il faut arriver à générer un produit qui soit déjà suffisamment sophistiqué, mais surtout qui puisse être complètement miniaturisé pour s'intégrer à des montures. Parce qu'il s'agit pas d'avoir, je sais pas, vous avez déjà certainement porté des lunettes 3D de cinéma, c'est terriblement affreux, et avec des batteries, il faut recharger des piles et ainsi de suite. Donc là, ce qu'on a essayé, c'est de recréer une lunette qui où on oublie totalement la technologie et où la microélectronique est tellement miniaturisée qu'on la voit plus.
Qu'on l'oublie. Catherine, ça vous inspire?
Le design est assez futuriste, je trouvais, en allant sur le site web. Une question, moi je suis myope, quand j'ai besoin de lunettes de soleil teintées, est-ce qu'un jour vous allez travailler avec des opticiens pour adapter ça, ou est-ce que je suis obligée d'avoir des lentilles et vos lunettes au-dessus?
Alors, c'est notre graal et nous l'avons atteint, si on peut dire. Voilà, à la date d'aujourd'hui, donc il va y avoir une première diffusion de lunettes de soleil du type lunettes classiques que vous pouvez avoir. Alors, on va décliner ça sous la forme d'une lunette sport masque, un petit peu comme les lunettes de vélo. Il y a une lunette, un style pilote métal.
Hein.
Voilà, absolument. Voilà, on prend des modèles un peu. Mythique qui passe tout seul au niveau du design. Et puis, on va décliner ça sur des visières de moto, sur des marques assez premium au début.
Et ça, c'est très bientôt. Ce sera pour la mi-août, tout ça.
Ah oui, c'est là justement, c'est ce timing. Le timing est lancé. Donc, les prods sont en cours de lancement. Et donc, on voudrait se caler sur mi-août, fin août. On va aborder le Tour de France, ça va être superbe. Voilà, on a vraiment ce sujet-là. Et si je reviens sur un sujet un peu plus, pas médical, mais vous parliez des enfants tout à l'heure avec les crèmes solaires. Et il y a une vraie problématique. Vous pouvez constater que sur les plages,
ils n'ont pas de lunettes, ils n'en portent pas.
Voilà. Ah oui, alors ils sont couverts de crème solaire, ils sont tout blancs, ils sont tout blancs, mais ils n'ont pas de... Et on a une explication à ça. Une explication, c'est que l'enfant, surtout la maman, a besoin d'avoir le lien direct avec l'enfant au niveau des yeux. Et quand vous leur mettez des lunettes de soleil, ce lien disparaît.
C'est une interprétation.
Oui, mais elle est reconnue. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand quelque chose est ludique, un enfant le garde. Et on a au centre de la lunette, au niveau du nez, la microélectronique qui est placée, qui est très peu visible. On peut à peine la deviner. Elle est bien protégée en plus. Et donc, si l'enfant met ses doigts devant le capteur, les verres vont devenir clairs. Et il va y avoir comme un petit jeu avec ce système. Et l'enfant va garder les lunettes.
Dora ?
Ah, c'est drôle. Non, moi, je me posais la question du confort et du poids. Parce que vous dites que c'est très miniaturisé, mais est-ce que c'est plus lourd qu'une paire classique, que ce soit pour enfants ou pour adultes ?
Alors, on va revenir sur le sujet. Donc, effectivement, on déploie donc des lunettes qui n'auront pratiquement pas de différence de poids.
D'accord.
Les matrices sont ultra légères. La microélectronique remplace le poids de la matière qui est enlevée dans la lunette pour la loger. Donc, on se retrouve à un poids. Et vous parliez de correction optique tout à l'heure. Mm-hmm. Donc, notre sujet, c'est effectivement, dans les premiers stades, vous aurez des lunettes qu'on appelle les lunettes plano, ça veut dire sans correction optique. Mais dès les premiers lancements, on s'attelle actuellement à régler des solutions pour avoir des corrections optiques simples et ensuite passer au progressif. Et donc, c'est le sujet sera d'autant plus intéressant que une conductrice ou un conducteur qui porte une correction optique pourra rentrer dans le tunnel sans être obligé d'enlever ses lunettes, puisque là, si vous enlevez des lunettes solaires quand vous êtes dans un tunnel avec une correction, vous n'avez plus la correction.
Voilà. Donc, pour bien comprendre, vous vous adressez aux personnes qui sont sur la route, beaucoup, et aussi aux sportifs, hein, ceux qui font du vélo régulièrement. C'est ça, hein, surtout votre
Alors,
cible.
c'est notre point d'entrée, puisque donc, les lunettes de sport, les visières de casque de moto, mais la vue est quelque chose de très important.
Quand on est sur la route ou quand on est à vélo. Catherine Testa.
Bientôt, du coup, nos enfants auront les lèvres bleues et des lunettes un peu futuristes. Moi, je trouve vraiment ce look assez futuriste et assez sympathique en soi. Mm-hmm. Et on a la curiosité de savoir pourquoi cette lunette aussi.
Oui, ça va permettre de bien s'adapter à cette intensité de lumière. Si on est ébloui, l'intensité va baisser. En termes de levée de fond, vous avez eu une levée récemment ?
Alors oui, donc on a eu des programmations financières qui d'entrée de fonds qui sont faites régulièrement, mais c'était à minima. Et là, on est dans la très 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 grosse levée de fonds. Je peux pas tout vous dévoiler comme ça, mais il est vrai que là, on est sur des acteurs qui ont maintenant compris avec les prototypages qui ont été donnés, et donc on parle en millions d'euros là maintenant qui sont dans la boucle et je peux vous assurer que on aura les moyens de nos ambitions.
Je crois que c'est bien parti. Hein. C'est bien parti pour Shatters. Oui. Merci Jean-Paul Borot. Europe 1. Avoir un bébé et être au soleil, c'est souvent source d'angoisse et de questionnement. Alors il existe des t-shirts fabriqués en France qui protègent totalement du soleil. On va les découvrir. Restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Ça nous fait sourire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la sécurité, hein, Dora, c'est important.
Hein. Et oui, avec nos sauveteurs en mer, la SNSM.
Et oui, bonjour Benjamin Sarfati.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur des achats à la SNSM. SNSM, ce sont les sauveteurs en mer, alors vous êtes sauveteur depuis l'âge de 18 ans et là, en ce moment, vous dirigez les achats, c'est-à-dire tous les produits, tous les équipements nécessaires aux sauveteurs. Vous les testez et vous les mettez même au point, hein, jusqu'à l'industrialisation de ces produits. Nous, je vous avoue franchement, on ne savait pas qu'il y avait autant de produits au sein des sauveteurs en mer. Moi, je pensais qu'il y avait une combinaison, deux, trois trucs et c'était fait. Mais en fait, il y en a énormément.
Exactement. Aujourd'hui, c'est plus de 600 références. Et comme vous l'avez très bien expliqué, à la SNSM, puisqu'on est dans une niche, C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui sur un segment qui est très particulier. On a peu d'industriels qui développent des produits ou qui conçoivent des produits pour notre activité. Donc on développe, on conçoit et on fabrique les produits pour notre usage. Donc c'est-à-dire qu'on fait du fil au produit fini.
C'est-à-dire que tout est fait en interne.
Alors tout, on fait toute la partie R&D, les cahiers des charges,
les recherches et développement.
Je dirais qu'on se balade dans le monde entier pour aller chercher les produits ou éventuellement les idées qui pourraient répondre à nos problématiques, quelles qu'elles soient. Et puis ensuite, on identifie un industriel sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour qu'il puisse fabriquer nos produits.
Alors, pour pouvoir mieux comprendre, vous avez des exemples de vos innovations là, pour cet été ?
Les exemples d'innovation pour cet été, on est en train de travailler, on est en train de finaliser les nouvelles générations de vestes et de salopettes qui équiperont pour les 10 prochaines années nos 4000 sauveteurs embarqués. Ces équipements comprennent alors, on appelle ça couramment des cirés, ce sont des vestes respirantes, Gore-Tex, 4 couches, qui sont prêtes à affronter tous les types de conditions, aussi bien de pluie que de brouillard salin, en passant par des conditions que vous pouvez imaginer. Et on y a intégré en avant-première mondiale de la LED textile. Cette LED textile va nous permettre de pouvoir identifier nos sauveteurs lorsqu'ils sont en train de travailler en extérieur du bateau de nuit, par exemple pour faire de la recherche de naufragés. Et à l'inverse, lorsqu'ils peuvent être eux-mêmes parfois en difficulté, ça permet d'identifier au premier coup d'œil, suivant l'intensité, le type d'éclairage, dans quelle situation se trouve le sauveteur.
Et vous parliez de la recherche de naufragés. Vous avez aussi développé, j'ai trouvé ça absolument génial, un sac de matériel médical étanche et flottant. Et ça, c'est une première mondiale.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a été contraint par un problème normatif d'avoir pour nos équipements, c'est-à-dire qu'on a de l'oxygène à bord de nos bateaux, on a des défibrillateurs, on a un certain nombre de matériel paramédical qui, lorsque l'on a besoin de transborder ce matériel, c'est-à-dire que de prendre notre matériel à bord de notre bateau pour aller le mettre sur un autre bateau, et bien parfois en fonction des conditions de mer, on va devoir éltrier ce matériel parce qu'on va devoir avoir un appui aérien. Dans d'autres conditions, on sera dans l'incapacité de pouvoir se mettre à couple, c'est-à-dire mettre les bateaux côte à côte pour que l'on puisse transborder ce matériel. Et donc, on va devoir jeter le matériel à la mer avec les sauveteurs et puis parfois y aller à la nage. Donc, dans tous ces cas de figure, il faut qu'on puisse gonfler ce sac, qu'il soit complètement étanche, mais qu'il puisse répondre à des contraintes qui sont par exemple celles du matériel médical. En passant par des règles qu'on appelle d'asepsie, c'est-à-dire
des règles d'hygiène pour que tout ce matériel puisse être destiné aux naufragés.
Exactement, ou aux blessés.
Ou aux blessés.
Parce qu'il n'y a pas que des naufragés, parfois on intervient uniquement pour des gens qui se blessent à bord de leur bateau.
Que dit notre coach Jean Moreau ?
Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que l'association a l'air très bien gérée et qu'elle est indépendante des subventions et des financements publics, puisque j'ai lu que 77% du financement provenait de donateurs privés. Et du coup, je posais la question de savoir qui sont ces donateurs privés, des particuliers, des entreprises, des grands mécènes.
Alors Didier, en grande majorité, ce sont des particuliers. Aujourd'hui, les particuliers, c'est plus de 80% des financements de la SNSM. Et puis après, vous avez raison de le citer, on a quelques grands mécènes, dont un qui nous accompagne depuis 2008, qui est Total. On en entend peu parler, mais Total nous accompagne depuis de nombreuses années sur tous les équipements et la formation.
Alors, c'est pour vous, c'est pour tous les sauvetages. On l'a vu, veste et salopette, le sac de matériel médical étanche. Mais je crois qu'il y a la police de Monaco aussi qui achète vos équipements ou des pompiers.
Exactement, Elisabeth. C'est-à-dire qu'on intervient, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on est donc une association de loi 1901 avec un faible financement public. Et c'est ce paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement qu'on opère au sein de la SNSM sont ensuite repris par d'autres entités qui, elles, sont des entités étatiques. Je pense par exemple aux sapeurs-pompiers, je pense dans certains domaines à la Marine nationale et je pense parfois à d'autres pays par exemple la Principauté de Monaco qui nous a sollicité pour pouvoir reprendre nos équipements et travailler avec nous sur le développement de nos équipements.
Alors quand on parle de sauveteurs en mer, on parle aussi à des choses qui ne sont pas très agréables, comme notamment retrouver des personnes dans l'eau. Et là aussi, avec les bateaux, vous travaillez sur une nouvelle flotte pour avec des équipements très particuliers, avec des caméras thermiques pour pouvoir retrouver plus rapidement et sauver là encore d'autres vies.
Oui, la vision, ce qu'on appelle la vision thermique ou les caméras thermiques, c'est-à-dire que ce sont des caméras qui sont capables d'identifier des points chauds. Alors on comprend facilement, alors en plein été c'est un petit peu plus compliqué, quand c'est le cas actuellement, mais la nuit, lorsque les températures redescendent, eh bien on peut, lorsque l'eau est plus froide que le corps, c'est-à-dire en dessous des 37 degrés, eh bien rapidement quand on est en phase de recherche, ce sont des moyens ou des techniques qui nous permettent de pouvoir identifier rapidement un naufragé et la portée peut aller parfois à plusieurs centaines de mètres.
Ouais, donc vous pouvez être beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus efficace. Comment peut-on vous aider là aujourd'hui, la SNSM, hein, les sauveteurs en mer, je crois que vous avez un appel aux dons à faire là sur Europe 1.
Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est-à-dire que la SNSM vit de la générosité du grand public. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, la SNSM, vous avez plusieurs façons d'aider les sauveteurs en mer, hein, les 8000 sauveteurs qui sont bénévoles. La première action, c'est bien évidemment un don, mais vous pouvez également aider l'association parfois différemment, c'est-à-dire qu'on dispose d'une boutique qui s'appelle la boutique des sauveteurs en mer, qui vous permet aussi parfois de faire des achats solidaires. Et puis plus largement, c'est-à-dire que la SNSM, c'est bien évidemment les sauveteurs en mer que vous voyez sur les bateaux, ce sont les nageurs sauveteurs que vous voyez l'été sur la plage, mais également dans la prévention, avec par exemple le dispositif individuel de localisation, qui est le DIAL, qui est un outil qui permet d'éviter des accidents avec un bracelet qui permet de géolocaliser les gens, quelles que soient les activités nautiques ou même terrestres.
On l'entend, vous avez des tas d'innovations à la SNSM, hein, les sauveteurs en mer. Merci à vous, Benjamin Serfati. J'espère que nos auditeurs ont bien entendu votre appel aux dons, hein, et de votre boutique solidaire, hein, laboutique.snsm.org. Jean, le mot de la fin peut-être ?
Le mot de la fin, oui, il est simple. Moi, j'ai bien aimé tout ce qu'on a vu. J'ai juste un petit bémol. Il faut, pour tous les entrepreneurs qui vont se poser la question cet été sur la plage, posez-vous attention aux fausses bonnes idées et attention aussi à s'attaquer à un vrai marché, à un vrai problème. Parfois, on peut poursuivre un mirage. Donc, allez-y, mais posez-vous les bonnes questions et assurez-vous qu'il y a une taille du marché, qu'il y a un vrai problème, qu'il y a un vrai sujet sous-jacent et que ce n'est pas juste... Un petit truc gadget, parce que parfois ça peut être un piège pour l'entrepreneur.
Dora ?
Eh ben moi, je suis convaincue par toutes ces solutions. Je vais me balader avec mon Bob Ringards, je vais louer un bateau et puis je vais soutenir la SNSM.
Merci à vous, c'est la fin de votre émission. On se retrouve demain pour vous montrer que la France se bouge même pendant l'été. À demain.